Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Audiolib présente Seconde Fondation. Le cycle de fondation, tome 3, d'Isaac Asimov. Traduit de l'anglais par Pierre Billon et Philippe Gindre. Lu par Stéphane Ronchevski. Note de l'éditeur. La présente traduction de Pierre Billon a été revue, complétée, il manquait l'équivalent de 30 pages, et harmonisé par Philippe Gindre en 2006 pour les éditions de Noël à partir de l'édition américaine, corrigée et définitive, de Bantam Books, parue en 1991. Attention ! En début de plusieurs chapitres, certaines phrases de l'Encyclopédia Galactica sont laissées incomplètes par l'auteur. Ces coupes, marquées par des points de suspension dans le texte original, sont traduites à l'audio par une diminution du niveau sonore. En mémoire de John W. Campbell, 1910-1971. Première partie. La quête du mulet. Chapitre 1. Deux hommes et le mulet. Le mulet. Après la chute de la première fondation, le régime du mulet se montra enfin sous un jour constructif. Après l'effondrement définitif du premier empire galactique, le mulet fut en effet le premier souverain de l'histoire à unifier la galaxie et à y régner sur un empire global digne de ce nom. L'ancien empire commercial de la défunte fondation, irréductiblement hétérogène, était demeuré la proie de dissensions permanentes, en dépit des vagues assurances de la psychohistoire et de ses prédictions. Il n'eut jamais rien de comparable, en tout cas, avec l'union des mondes instaurée par le mulet, organisation qui demeura en permanence étroitement soumise à sa férule, notamment au cours de cette période de l'histoire que ses protagonistes eux-mêmes baptisèrent l'ère de la quête. Encyclopédia Galactica. Toutes les citations de l'Encyclopédia Galactica que nous reproduisons avec l'aimable autorisation des éditeurs sont tirées de la 116e édition. Terminus, Société de publication de l'Encyclopédia Galactica, 1020 de l'ère de la Fondation. Il y aurait bien d'autres choses à dire sur le mulet et sur son empire. Mais tel n'était pas l'objectif premier des lexicographes de l'Encyclopédie lorsqu'ils rédigèrent l'article que nous venons de citer. Il faut bien le reconnaître. Et nous n'avons pas davantage l'intention d'infliger à nos lecteurs une somme de détails aussi aride. Le passage en question se propose en fait d'expliciter les conditions économiques qui conduisirent à l'ascension du premier citoyen de l'Union, puisque tel était, très officiellement, le titre porté par le mulet, ainsi que les conséquences qui en découlèrent. Si, à quelques moments, le rédacteur de l'article s'étonne un tant soit peu de l'extraordinaire rapidité de l'ascension du mulet, qui, rappelons-le, parvint à se hisser en moins de 5 ans jusqu'à la puissance suprême et à régner sur un véritable empire galactique alors qu'il était littéralement parti de rien. L'honnête lexicographe n'en laisse rien paraître. Et si le coup d'arrêt soudain donné au mouvement d'expansion au bénéfice d'une consolidation quinquennale du territoire lui cause la moindre surprise, le zélé rédacteur se garde de la manifester. Nos objectifs divergent donc par trop pour que nous ne soyons pas obligés, à partir de maintenant, de poursuivre seuls la route que nous nous sommes fixés. Il nous faut désormais reprendre, étape par étape, l'histoire du grand interrègne, de cette période de l'histoire qui débute avec la chute du premier empire galactique, et plus exactement à l'issue des 5 années de consolidation que nous venons d'évoquer, et s'achève avec le début du second empire. Du point de vue politique, le calme règne au sein de l'Union. Sur le plan économique, c'est la prospérité. Rares sont ceux qui se soucieraient d'échanger la paix dont ils jouissent sous la poigne de fer du mulet contre le chaos qu'ils ont connu jusque-là. Les mondes qui, 5 ans plus tôt, étaient encore affiliés à la Fondation, éprouvaient peut-être encore une vague nostalgie à l'évocation de cette vassalité révolue, mais rien de plus. Lorsqu'on l'avait jugé utile, les chefs de la Fondation avaient été convertis. Les autres étaient morts. De tous les convertis, le plus utile était encore Anne Pritchard, car Pritchard était désormais, et très officiellement, général au service du mulet. Du temps de la Fondation, Anne Pritchard était capitaine et membre du réseau clandestin de l'opposition démocratique. Lorsque la Fondation était tombée sans coup férir aux mains du mulet, Pritchard avait tout d'abord, comme les autres, ardemment combattu le tyran, avant d'être, à son tour, converti. La conversion en question n'avait rien d'ordinaire. Il ne s'agissait pas d'une banale volte-face imposée par la raison ou par un quelconque opportunisme. Anne Pritchard en était pleinement conscient. S'il avait à ce point changé, c'était parce que le mulet était en fait un mutant, doué de pouvoirs psychiques suffisamment puissants pour lui permettre de modeler, pour ainsi dire à sa convenance, la personnalité du commun des mortels. Mais la transformation dont il avait été l'objet donnait à présent entière satisfaction au général Pritchard. C'était dans l'ordre des choses. La profonde satisfaction que les convertis ressentaient en constatant leur état était d'ailleurs le symptôme le plus flagrant et le plus caractéristique de la conversion. Mais Anne Pritchard avait cessé d'éprouver ne fût-ce que de la curiosité à cet égard. De retour de sa 5e grande expédition dans les vastes espaces de la galaxie qui demeuraient encore extérieurs à l'Union, c'est avec un sentiment bien proche d'une joie sans artifice que ce vétéran de l'espace, cet agent des services secrets, envisageait son entrevue imminente avec le premier citoyen. Certes, son rude visage, qu'on eût dit taillé dans un bois exotique, sombre et sans grain, à tel point que le moindre sourire paraissait devoir le faire fendre irrémédiablement, son rude visage, donc, n'en laissait rien paraître. Mais le mulet n'avait que faire des apparences. Le mulet était capable de lire à livre ouvert dans le cœur des hommes, d'y déceler la moindre émotion, fût-ce la plus intime, avec la même aisance qu'un individu normal s'aperçoit que son interlocuteur vient de hausser les sourcils. Pritchard abandonna son aérovoiture dans les ex-hangars du vice-roi et pénétra dans l'enceinte du palais à pied, ainsi que l'exigeait l'étiquette. Il se contenta de suivre les flèches, parcourant plus d'un kilomètre le long de la voie déserte et silencieuse. Pritchard savait que, sur des kilomètres carrés, il ne trouverait pas un seul garde, pas un seul soldat, pas un seul homme armé. Le mulet n'avait nul besoin de protection. Le mulet était son propre garde du corps, le meilleur et le plus efficace dont il put rêver. Le seul bruit notable qui parvenait aux oreilles de Pritchard était en fait celui, régulier et discret, de ses propres pas. Devant lui se dressait déjà le palais, gigantesque forteresse, aux murailles d'acier étincelantes et incroyablement résistantes, dont les arcades et les voûtes surdimensionnées, d'une audace confinant à l'extravagance, étaient caractéristiques de l'architecture débridée du dernier empire. La formidable construction dominait de sa masse impressionnante et rien moins que menaçante les champs nus qui l'entouraient et la cité populeuse qui s'étendait au-delà, à l'horizon. À l'intérieur du palais résidait un homme seul, seul et unique de son espèce, doté de facultés psychiques inhumaines sur lesquelles reposait tout entière la nouvelle aristocratie et la structure même de l'Union. La porte gigantesque, au revêtement parfaitement lisse, s'ouvrit majestueusement à l'approche du général, et il fit son entrée. Il prit pied sur la rampe mécanique impressionnante qui se mit en branle sous ses pas. Au terme d'une ascension rapide et silencieuse, il se retrouva devant la petite porte discrète qui commandait le cabinet particulier du mulet dans la plus resplendissante de toutes les tours du palais. Cette porte s'ouvrit. Bail Chanis était encore un jeune homme. Qui plus est, Bail Chanis n'avait jamais été converti. Ce qui, en langage courant, signifiait que sa personnalité morale n'avait pas été modelée par le mulet. Elle demeurait telle qu'elle résultait de son hérédité, modifiée par l'influence du milieu. Et cette situation lui donnait également toute satisfaction. Avant même d'avoir atteint la trentaine, il jouissait déjà d'un prestige sans égal au sein de la cité. Il était beau garçon, doué d'un esprit vif et prompt à la répartie, ce qui lui valait tout naturellement un grand succès dans la société. Il était en outre fort intelligent et possédait une remarquable maîtrise de soi, ce qui lui valait la faveur du mulet. Cette double réussite lui procurait un parfait contentement. Et voilà que, pour la première fois, le mulet le convoquait en audience personnelle. D'un pas allègre, il descendit l'éblouissante chaussée menant au tour d'aluminium expansé, jadis résidence du vice-roi de Kalgan, du temps des anciens empereurs, puis siège officiel des seigneurs indépendants de Kalgan, du temps de leur propre règne. Ces tours abritaient désormais le premier citoyen de l'Union, puisque le temps était venu qu'il régna à son tour. Chanis fredonnait en sourdine. Il n'éprouvait aucun doute quant au motif de sa convocation. Il s'agissait naturellement de la seconde fondation. La seconde fondation. Cet épouvantail universel, à la simple évocation duquel le mulet avait instantanément renoncé à sa politique d'expansion illimitée pour se confiner dans une prudente stagnation. La consolidation, pour utiliser le terme officiel. Mais la rumeur allait bon train. D'ailleurs, pouvait-il en aller autrement en pareil cas? On disait ainsi que le mulet allait bientôt reprendre l'offensive. On disait aussi que le mulet avait découvert le repère de la seconde fondation et ne tarderait pas à lancer l'attaque. On disait également qu'il avait conclu un traité avec la seconde fondation et qu'il s'était partagé la galaxie. On disait enfin que le mulet avait décidé que la seconde fondation n'était qu'un mythe sans fondement et qu'il allait sans tarder faire main basse sur la totalité de la galaxie. Mais que ne disait-on pas? Il serait vain de tenter d'énumérer toutes les variantes de cette rumeur telles qu'on pouvait les surprendre alors assez aisément dans le secret des antichambres. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que de telles rumeurs circulaient. Mais depuis quelque temps, elles semblaient prendre plus de consistance. On les répétait avec plus d'insistance, et tout ce que la galaxie comptait alors d'esprit libre, assoiffé d'expansionnisme, de ces êtres qui s'épanouissent au cœur des batailles et ne vivent que pour l'aventure, à condition qu'elle soit militaire, et qui dépérissent littéralement si la paix finit par durer trop longtemps, tous ces belliqueux trépignaient de joie. Bail Chanis était de cela. La mystérieuse fondation, deuxième du nom, ne lui causait à vrai dire aucune crainte. Il ne redoutait pas davantage le mulet, et en tirait même vanité. Sans doute, certaines personnes, irritées par l'irrésistible ascension d'un homme aussi jeune, attendaient-elles dans l'ombre le moment propice d'une revanche sur ce galant cavalier des dames de joyeuse vie, qui prenait ouvertement pour cible de ses sarcasmes l'apparence physique du mulet, et l'étonnante claustration volontaire que s'imposait le premier citoyen. Mais nul ne se serait risqué à l'imiter, et bien peu osait rire de ses plaisanteries. Mais son audace demeurant impunie, sa réputation se renforçait néanmoins de jour en jour. Chanis improvisait à présent des paroles sur l'air qu'il fredonnait, paroles dénuées de sens, dont le refrain était invariablement « La seconde fondation menace la nation et toute la création. » Il arriva enfin au palais. La porte gigantesque, au revêtement parfaitement lisse, s'ouvrit majestueusement à son approche, et il fit son entrée. Il prit pied sur la rampe mécanique impressionnante qui se mit en branle sous ses pas. Au terme d'une ascension rapide et silencieuse, il se retrouva devant la petite porte discrète qui commandait le cabinet particulier du mulet, dans la plus resplendissante de toutes les tours du palais. Cette porte s'ouvrit. L'homme, qui n'avait d'autre nom que le mulet, ni d'autre titre que celui de premier citoyen, jeta un regard à travers le mur dont la transparence à sens unique lui permettait d'observer tout à loisir la cité légère et aérienne qui s'étendait à l'horizon. Dans le crépuscule qui allait s'épaississant, apparaissaient une par une les étoiles. Il songea que toutes, désormais, lui devaient allégeance. Toutes, sauf une. Cette pensée fit monter à son visage un sourire passagèrement teinté d'amertume. Cette allégeance, ses sujets la devaient à une personnalité que bien peu avaient eu l'occasion de contempler de leurs propres yeux. Il était impossible, en effet, de contempler le mulet sans éprouver aussitôt un profond sentiment de dérision. 55 kilos de chair et d'os qui s'étiraient laborieusement sur près d'1,75 m. Ses membres n'étaient que des tiges osseuses qui saillaient de son corps décharné en articulations anguleuses, totalement dépourvues de grâce. Son visage émacié disparaissait presque entièrement sous un nez monstrueux, une excroissance charnue en forme de bec d'oiseau, formant saillie sur près de 10 cm. Seuls les yeux s'inscrivaient en faux contre cette farce grotesque, cette plaisanterie de la nature que constituait le mulet. Dans ces yeux-là, on lisait une douceur étrange, d'autant plus étrange si l'on considère que leur propriétaire n'était autre que le plus grand de tous les conquérants de la galaxie. Et à cette douceur déjà incongrue se mêlait encore, invariablement, une certaine tristesse. Au sein de la cité régnait, ainsi qu'on pouvait s'y attendre, l'exubérante joie de vivre d'une capitale richissime, régnant sur un monde dont l'aise était plus grande encore. Le mulet aurait fort bien pu établir sa capitale sur la fondation, le plus puissant de tous ses ennemis. Cet ennemi gisait désormais à ses pieds. Mais la planète Terminus, siège de la fondation, située comme elle l'était à l'extrême frange de la galaxie, était bien trop éloignée pour convenir à ses desseins. Kalgan occupait une position plus centrale, servait traditionnellement de lieu de plaisir à l'aristocratie, et lui convenait infiniment mieux du strict point de vue stratégique. Mais toute cette exubérance, qu'aiguisait encore une prospérité sans exemple, l'empêchait de trouver la paix. On le craignait, on lui obéissait, on le respectait même, mais à bonne distance. Qui donc aurait pu jeter sur lui un seul regard sans aussitôt le considérer avec mépris? Cela seul qui l'avait converti. Mais cette loyauté tout artificielle ne lui apportait qu'une maigre satisfaction. Elle manquait, pour ainsi dire, de saveur. Il aurait pu instituer des titres, imposer une étiquette de cour, un cérémonial compliqué, mais tout cela n'aurait rien changé. La moins pire de toutes les solutions était encore de rester, aux yeux de tous, mais sans se montrer pour autant, le premier citoyen. Il se sentit envahi soudain par une vague de révolte, violente et brutale. La galaxie tout entière devait plier sous son joug. Pas un système ne devait lui échapper. Pourtant, 5 ans durant, il était demeuré silencieux dans sa retraite de Kalgan à cause de cette menace éternelle et silencieuse que faisait planer sur l'espace la seconde fondation. Cette fondation invisible, méconnue, insaisissable. Il n'avait que 32 ans. Pourtant, il se sentait vieux avant l'âge. En dépit de son pouvoir mental, de ses facultés de mutant, il n'en demeurait pas moins du point de vue physique un être chétif et difforme. Toutes les étoiles. toutes les étoiles, visibles ou invisibles, devaient tomber en son pouvoir. Ce serait là sa revanche. Sa revanche sur une humanité dont il se savait à jamais exclu. Sur une galaxie où il n'avait jamais pu trouver sa place. Un signal lumineux, froid et impersonnel se mit à clignoter avec insistance au-dessus de sa tête. Il pouvait suivre la progression de l'homme qui avait pénétré dans le palais, et dans le même moment, comme si ses sens de mutant s'étaient trouvés aiguisés et affinés par sa solitude crépusculaire, il sentit le flux émotionnel du visiteur envahir les cellules de son cerveau. Il l'identifia sans effort. C'était Preacher. Le capitaine Preacher, jadis officier de l'ex-fondation, ce même capitaine Preacher qui avait été ignoré et sous-estimé par les bureaucrates de ce gouvernement décadent. Ce même capitaine Preacher dont il avait dévoilé, en se jouant, les activités d'espion besogneux et qu'il avait tiré du ruisseau fangeux. Ce même capitaine Preacher dont il avait fait d'abord un colonel, puis un général, à qui il avait confié des fonctions qui embrassaient désormais la galaxie tout entière. Preacher, le rebelle irréductible devenu un général d'une loyauté à toute épreuve. Et pourtant, s'il était loyal, ce n'était pas du fait des prébendes, ni de la gratitude, ni des devoirs que lui imposait sa promotion. C'était tout simplement par la grâce tout artificielle de la conversion. Le mulet avait parfaitement conscience de l'existence de cette couche mentale superficielle de loyauté et d'affection à la fois solide et inaltérable qui influençait les sentiments et les émotions de Anne Preacher. Cette carapace émotionnelle qu'il avait lui-même implantée 5 ans auparavant dans le cerveau de son visiteur. Profondément enfouie sous cette carapace, subsistaient par traces les traits originaux d'une personnalité obstinée, rétive à toute règle, idéaliste dans l'âme. Pourtant, c'est à peine si lui-même, pourtant passé maître dans l'art de sonder les âmes, parvenait encore à détecter ses souvenirs de personnalité. Derrière lui, la porte s'ouvrit et il se retourna. Le mur reprit son opacité et les lueurs rouges du couchant firent place à la blanche luminescence de l'énergie atomique.